Chapitre 13. Le progrès dans la charité. 22e dimanche après la Pentecôte. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu, chapitre 22, verset 21. L'incident relaté dans le péricope évangélique eut lieu à Jérusalem, quelques jours avant l'arrestation de Jésus. Ses ennemis, ayant juré sa perte, veulent briser le mouvement populaire qui s'était produit en sa faveur lors de son entrée dans la ville. C'est pourquoi ils le harcèlent publiquement de questions, dans l'espoir de le compromettre à la fois aux yeux du peuple et de l'autorité romaine. Luc, chapitre 20, verset 20. Après plusieurs offensives sans succès, ils lui tendent un nouveau piège. Doit-on, oui ou non, acquitter la cote personnelle réclamée par le Romain usurpateur? Payerons-nous ou ne payerons-nous pas? Marc, chapitre 12, verset 14. En fait, les contemporains de Jésus, spécialement les Hérodiens, ralliés aux autorités occupantes, payaient ce tribut, et ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais la question de principe restait ouverte, et l'on en discutait dans les écoles des rabbins. Le cas de conscience proposé au Sauveur, malgré les précautions d'une politesse obséquieuse, était d'une habileté perfide. Si Jésus préconise le refus de l'impôt, on le dénonce au gouverneur. Dans le cas contraire, il accepte la servitude d'Israël. Il renie la souveraineté de Dieu sur son peuple. Le voilà discrédité auprès de la foule, qui ne verra plus en lui son Messie. Quoi qu'il réponde, son compte est réglé. Mais le Sauveur n'a pas de peine à déceler la ruse, et les hypocrites en seront de nouveau pour leurs frais. Le tribut devait être acquitté non pas avec la monnaie de bronze qui circulait en Palestine pour les usages courants, mais en bons deniers d'argent frappés à l'image de Tibère. « Montrez-moi la monnaie du tribut, » demande-t-il au questionneur. Ceux-ci sont pris à leur propre piège, car ils tirent aussitôt de leur ceinture le denier en question, prouvant ainsi qu'ils étaient passés chez le chat, changeur dans le but de payer l'impôt. Cette monnaie, Jésus ne la possède pas, lui, mais il s'amuse de leur déconvenue. « De qui est l'effigie que voici ? Et l'inscription ?» « De César, » répondent les autres, avouant, puisqu'ils s'en servent, qu'ils reconnaissent le joug de l'étranger. Le Sauveur ne leur en fait pas grief, qu'il renonce seulement à troubler les consciences. On peut rester fidèle à Dieu tout en se soumettant au pouvoir établi en ce qui est de leur ressort. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les adversaires se tiennent quoi? Cette réponse qui émerveille les témoins de la scène abolissait une confusion millénaire entre la politique et la religion. C'est la première fois que l'on distinguait si nettement Dieu de l'État. Toutefois, quelque avantage qu'il y ait à rappeler en tout temps une distinction aussi nécessaire, ce n'est pas pour ce motif que la liturgie nous a fait lire ce récit. Son intention est de retenir nos esprits sur les tout derniers mots. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons commencé dimanche dernier à préparer la reddition de comptes qu'il nous faudra effectuer au tribunal de Dieu. Nous continuons aujourd'hui. En regard du passif énorme que nous ne pourrons solder qu'en étant miséricordieux pour nos frères et qui peut-être pèsera encore lourdement sur nous, examinons maintenant ce qui figurera à notre actif. Ce second compte est constitué par les mérites que nous aurons acquis ici-bas. Le pécheur qui aurait le malheur de mourir dans un état de rébellion ouverte et volontaire contre Dieu ne pourrait se prévaloir d'un actif de bonnes œuvres antérieures. Sa révolte l'a annulé. Au contraire, en pardonnant au pécheur repentant, Dieu lui rend avec son amitié les mérites qu'il avait acquis lorsqu'il vivait en état de grâce. Il suit de là que tout en évitant le péché pleinement consenti, nous ne serions trop multiplier les actions vertueuses accomplies en état de grâce que Dieu veut bien considérer comme des mérites et qui nous vaudront de participer plus largement à sa gloire. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Que lui rendrons-nous quand nous paraîtrons devant lui? De toute évidence, ce qui lui appartient et qu'il nous avait prêté. Dans le langage courant, au moment où nous quitterons ce monde, nous rendrons notre âme à Dieu, notre âme créée à son image et sur laquelle le baptême a mis en relief l'inscription de son Fils. De qui est l'effigie que voici? Et l'inscription, l'image du Christ, y sera-t-elle nettement visible? L'inscription n'en sera-t-elle pas effacée comme sur une pièce de plomb? Une fausse monnaie dont César ne voudrait pas, est-ce tout ce que nous aurons à présenter à Dieu? L'inlassable bonté de notre Sauveur ne l'empêcha point de prononcer des paroles dont la sévérité même cherchait à nous préserver miséricordieusement d'erreurs irréparables. En vérité, je ne vous connais pas. Et la porte se referme à jamais sur les 5 jeunes filles qui s'étaient portées, mais insuffisamment préparées, à la rencontre de l'époux. Ceux-là seront sauvés que Dieu reconnaîtra. C'est pourquoi au jour de mon obsèque, l'Église demande au Seigneur qu'il ne nous oublie point à jamais. Mais le Seigneur nous reconnaîtra-t-il? Pour arriver à la gloire que Jésus-Christ nous a méritée, disait Bossuet, il faut porter son image, il faut être marqué à son caractère, il faut en un mot lui être conforme. Quelle ressemblance avez-vous avec sa pauvreté dans cette abondance, avec ses délaissements dans vos joies, avec sa croix, avec ses épines, avec son fiel et ses amertumes parmi vos délices dissolus? Est-ce là une ressemblance ou plutôt une manifeste contrariété? Cette vie que Dieu m'a donnée, aurais-je eu soin de la mener aussi droite, aussi bienfaisante qu'il le voulait? 5 talents ou 2 ou un seul? La quantité de ces dons n'importe pas, mais ce que j'en aurais fait. Dieu dit encore, Bossuet, fais un journal de notre vie. Une main divine écrit ce que nous aurons fait et ce que nous avons manqué de faire. Notre histoire nous sera un jour représentée et sera représentée à tout l'univers. Songeons à la faire belle. Ce journal de ma vie, malgré ses défectuosités inévitables, sera-t-il une version fidèle de l'Évangile, ou devrais-je y lire cette appréciation du juge « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis ?» Luc chapitre 6, verset 46. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il est amour et il nous aime d'un amour éternel. Il a tellement aimé notre pauvre monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus, charité incarnée, nous a aimés jusqu'à l'excès, jusqu'à nous transformer en lui dans l'Eucharistie, afin que nous sachions aimer le Père en aimant nos frères comme lui nous a aimés. Et les hommes, à la vue de nos œuvres bonnes, glorifieront le Père des cieux. Tel est le divin circuit de la charité, vertu céleste descendue avec le Christ sur notre terre et qui doit par nous remonter vers le ciel. Rendons-nous à Dieu l'amour qui vient de Dieu? La leçon de l'Évangile trouve un écho dans l'enseignement de l'Épître. Celle-ci est tirée de l'exquise lettre aux chrétiens de Philippe que saint Paul aime de la tendresse même du Christ Jésus. L'apôtre les remercie des attentions délicates qui lui ont témoigné dès le début de sa captivité. Que souhaiter à des amis aussi chers, sinon le plus grand de tous les biens, qu'il soit pur et irréprochable au jour du Christ? Nous avons déjà trouvé cette formule sous sa plume, et cette fois encore, il donne à ses disciples une assurance qu'il nous est réconfortant d'entendre de nouveau. La sainteté que la justice de Dieu requiert de nous au terme de notre vie terrestre est avant tout l'œuvre de sa miséricorde. « J'ai confiance, écrit-il, que celui qui a commencé en vous une œuvre excellente l'amènera à son terme jusqu'au jour du Christ Jésus. Notre sanctification est infiniment plus son œuvre qu'elle ne peut être la nôtre. Il nous fallait la croix de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Il nous fallait l'amour infini du crucifié pour nous faire renaître à la vie divine. Et nous ne vivrons comme des fils de Dieu que grâce à la présence en nous de la Sainte Trinité et à l'union permanente de la divinité de Jésus avec notre âme, qui est le fruit de l'Eucharistie. La part du Christ dans notre sainteté est tellement prépondérante qu'on serait plutôt tenté de se demander si nous avons à y prendre la nôtre. Cependant, notre part, si infime soit-elle, est indispensable. Elle consiste dans un joyeux acquiescement à l'amour que Dieu nous porte. Il fait tout et nous presque rien. Mais ce presque rien doit attester que nous connaissons l'immensité de son amour et que nous voulons y répondre. M'aimes-tu ? La question que Jésus pose par trois fois à l'apôtre qui avait chancelé dans l'épreuve s'adresse à chacun de nous. Le Sauveur ne nous demande rien de plus. M'aimes-tu ? Et la part qui nous revient de notre sanctification est contenue dans notre réponse. Seigneur, vous qui savez tout, vous savez que je vous aime et que je ne vous aime pas autant que je le voudrais et que je ne vous ai pas toujours aimé et je sais, hélas, qu'un amour humain peut s'affadir et verser dans la routine ou dans l'indifférence. Ce danger qui n'échappe pas à la clairvoyance de saint Paul le pousse à prier Dieu en faveur de ses chers Philippiens, afin que leur charité grandisse de plus en plus. La charité, c'est l'union étroite avec Jésus et par lui avec la Sainte Trinité. D'elle-même, la vie surnaturelle ne cesse de croître, aussi longtemps que le chrétien ne tombe pas dans le péché mortel. Sa croissance est illimitée. Nous pouvons toujours aimer Dieu davantage et nous unir à lui plus étroitement. Cet accroissement, favorisé par les sacrements, l'est aussi par les actes d'amour qu'accomplit le chrétien en état de grâce. La charité est le dernier mot de la loi, car tous les commandements se ramènent à aimer. Que de progrès nous avons encore à effectuer dans l'amour de nos frères. On peut affirmer que ce précepte est le dernier obstacle à franchir pour parvenir à la perfection. Aimer de plus en plus, de mieux en mieux, voilà le don que Dieu attend de ses enfants à qui il a tout donné. M'aimes-tu ? Nous le lui prouvons en nous soumettant filialement à toutes ses volontés, en ne lui refusant rien de ce que notre raison, éclairée par la foi, nous indique comme étant la volonté actuelle de Dieu sur nous. Le progrès dans la charité est possible à tous. La sainteté n'est pas attachée à des actes extraordinaires. Les humbles actions de nos journées nous sanctifient dès qu'elles sont offertes à Dieu comme un hommage de notre amour, au lieu que les aumônes et les jeûnes ostentatoires sont vidés de tout mérite parce qu'ils ne sont pas offerts au Père dans le secret. De même, nous ne vaincrons pas notre égoïsme en cherchant à faire ce qui ne nous plaît pas, craignant les revanches de l'amour-propre, mais en aimant ce que nous devons faire et que Dieu nous demande. La valeur méritoire d'un acte n'est pas liée essentiellement à la grandeur de la difficulté à surmonter. Le mérite réside d'abord dans l'amour de celui qui agit, quoi qu'il ait à faire. La très sainte Vierge n'a pas commis le moindre péché. Oserait-on supposer que l'obéissance lui ait coûté ? L'inégalable qualité de ses mérites tient à celle de son amour. Que dirons-nous des tourments de notre bien-aimé Sauveur en sa passion ? Des malades affligés d'interminables douleurs nous font parfois observer que les tortures du crucifixion furent moins longues que les leurs, car elles n'ont duré que 3 heures. Mais si atroces que furent les souffrances de Jésus, ses mérites viennent moins de la cruauté de son supplice que de l'amour infini du divin patient. À plus forte raison, ce n'est ni la sublimité, ni la difficulté de nos actions qui en font la valeur, mais l'amour qui les inspire. Cet amour qui, dans les devoirs et les épreuves de chaque jour, peut et doit progresser de plus en plus. Toutefois, la charité, reine des vertus, ne va pas sans ses suivantes, la connaissance du devoir et la prudence surnaturelle. Paul veut que nos progrès dans l'amour aillent de pair avec une vraie science et le parfait discernement qui nous feront découvrir et choisir ce qu'il y a de mieux en chaque cas concret. La lumière de l'Évangile et la sagesse de l'Église aideront le chrétien à percevoir avec exactitude le conseil intérieur de l'Esprit-Saint. Son courage répudiera toutes les lâchetés, mais ne se brisera point dans les témérités inutiles. Son zèle éclairé sera toujours brûlant, sans être intempestif ni indiscret. Sa bonté perspicace ne dégénérera pas en faiblesse, et sa fermeté sera tempérée de douceur. Et pour que sa prudence elle-même ne le trompe point, il possède un indice infaillible. Tout ce qui tendrait à le replier sur soi et à lui éviter l'effort coûteux lui sera suspect. Le discernement du mieux possible nous permettra également de progresser en amour dans l'exécution de tous nos devoirs. Nous servirons Dieu tout en respectant César. En prononçant la distinction des deux domaines de Dieu et de César, Jésus ne sépare pas les deux autorités. Celle de César n'est jamais indépendante de celle de Dieu. César, tout le premier, doit se soumettre à Dieu. La politique n'est pas affranchie des lois morales, pas plus qu'elle ne peut ignorer les droits de Dieu. Le prétendrait-elle ? En ce cas, l'obéissance à Dieu prime l'obéissance aux lois civiles. Les chrétiens des premiers siècles subiront la torture et la mort plutôt que de sacrifier devant le buste des empereurs. En revanche, ils paieront les impôts et les taxes, et quand les autorités seront au service de Dieu pour le bien, ils leur obéiront, non par crainte des pénalités, mais loyalement, en conscience, car tout pouvoir légitime vient de Dieu. Romains chapitre 13, versets 1 à 7. La règle générale énoncée par Jésus à propos de César vaut pour toutes les circonstances où notre conscience est engagée, dans les affaires de la cité et dans celles de la profession, dans la solution des problèmes économiques et des questions sociales. Le chrétien n'opère pas son salut, pas plus qu'il ne travaille au salut du monde, dans l'abstrait, mais dans la réalité de ses occupations quotidiennes et de ses devoirs d'État. C'est dans la complexité de ses tâches, à son foyer, dans son milieu de travail, dans les soucis qu'il partage avec ceux qui sont présents et liés, qu'il doit chercher et suivre la ligne de conduite qui correspond à la volonté de Dieu. C'est en chrétien, l'esprit nourri de l'Évangile et le cœur débordant d'amour pour ses frères, qu'il doit penser les problèmes de l'enseignement et de l'éducation de la jeunesse, ceux du taudis, de l'alcoolisme, de la moralité publique, du statut du travail, du chômage, de la maladie, de la vieillesse. En aucun cas, le chrétien ne doit déserter sa fonction terrestre et son devoir d'homme. Il doit rendre à César ce qui était César, mais il le fait en rendant à Dieu l'obéissance qu'il lui doit. Toute sa vie baignera ainsi dans la charité de Jésus-Christ. En vérité, notre œuvre n'est jamais terminée, et nous n'atteindrons jamais le point où nous ne puissions plus croître dans l'amour. Mais c'est justement cette charité continuelle qui nous rapproche du jour de Jésus-Christ. C'est dans la pratique de l'amour que nous nous portons à sa rencontre. En nous appliquant à ressembler à notre Seigneur, nous affirmons sa présence dans le monde. Nous hâtons la venue de son règne, nous participons déjà à son avènement. Devant la loi d'un progrès perpétuel, nous serions légitimement inquiets et nous étions seuls à le réaliser. Mais notre Sauveur est avec nous. Lui-même rassemblera tout à l'heure nos modestes efforts et les joindra à son sacrifice, et en notre nom, il rendra à Dieu ce qui est à Dieu. Puis, demeurant en lui, comme il demeurera en nous, grâce au sacrement de son corps, nous pourrons nous en remettre à celui qui a commencé en nous l'œuvre de notre sanctification pour la mener à bon terme. Lui seul peut finir ce travail. Courage donc, professons dans la charité avec l'humble certitude de rester toujours imparfait. C'est Dieu qui achèvera. Elle est également destinée à éveiller autant qu'il plaît à Dieu des vocations missionnaires parmi nos jeunesses masculines et féminines. Elle nous rappelle enfin que l'évangélisation du monde est une œuvre surnaturelle qui exige avant toute chose la prière de toute l'Église. Lorsque notre Seigneur faisait observer à ses disciples la disproportion existant entre les possibilités inouïes d'une abondante moisson et le petit nombre des ouvriers, il ne les envoya pas tout de suite au secours des brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a plus pressé que de partir en campagne. « Priez donc le maître de la moisson, leur dit-il, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » En face d'une entreprise qui dépasse les forces humaines, le maître entend que nous commencions par mesurer notre faiblesse afin d'acquérir la conviction que Dieu seul assurera l'efficacité de nos efforts. De nos jours notamment, il est manifeste que le salut du monde est lié à l'unité chrétienne si malheureusement brisée. Les peuples païens n'ont-ils pas quelque excuse à ne pas considérer comme la seule vraie religion un christianisme qui leur est annoncé par des prédicateurs divisés entre eux? Avant de consommer son sacrifice, le Seigneur suppliait son Père de maintenir l'unité la plus étroite au sein de l'Église. « Que tous soient un, demandait-il, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » La vision de nos déchirements futurs bouleverse son cœur et il répète son émouvante prière « Moi en eux et toi en moi » afin qu'ils deviennent parfaitement un pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé. De telles paroles sont trop claires pour qu'on se permette d'en atténuer la rigueur. Le Seigneur sait, le Seigneur a affirmé que son Église doit rester une pour que le monde croie en lui. La condition est absolue. Elle nous jette dans la plus affreuse humiliation. Les deux causes de l'apostolat missionnaire et du retour de l'Église à l'unité sont solidaires. Mais au moyen de quel miracle Dieu réunira-t-il en un seul corps son Église démembrée et comment obtiendra-t-on ce miracle autrement que par une prière éperdue et incessante? Priez donc le maître de la moisson, car c'est lui qui envoie les ouvriers qu'il se choisit. Les premiers prédicateurs de l'Évangile parmi les infidèles viennent nécessairement des pays chrétiens, et c'est l'honneur de la France d'avoir longtemps tenu la tête des nations missionnaires. Cette étape peut être assez longue, elle est provisoire, car les pasteurs des communautés chrétiennes en pays païens ne sauraient être indéfiniment des étrangers. Les peuples de l'Orient tiennent à bon droit à leur civilisation. Il existe chez eux une élite intellectuelle qui a ses exigences et sa légitime dignité. Le christianisme n'aura de crédit auprès des esprits cultivés que s'il leur est enseigné par des hommes de leur langue, de leur éducation et de leur rang. C'est pourquoi les souverains pontifes désirent que les missionnaires préparent des clergés indigènes appelés à plus ou moins brève échéance à les remplacer tout à fait. La formation de prêtres indigènes requiert assurément la présence et le désintéressement des missionnaires, mais elle suppose, au sein des premières générations de convertis, un travail d'approfondissement et de rajeunissement qui est le fruit de la prière. Cela est si vrai qu'à côté des ouvriers apostoliques, nos ordres contemplatifs de l'Occident procèdent en terre païenne à des fondations vouées exclusivement à la prière. Cette prière nécessaire à l'essor de nouvelles communautés chrétiennes, notre Seigneur la demande à tous les enfants de son Église. Elle est la contribution primordiale de tous les chrétiens au salut du monde. Nous ne saurions à ce propos trouver un exemple plus persuasif que celui de Sainte Thérèse de Lisieux. La jeune cloîtrée devenue la patronne des missions, titre qui serait paradoxal si la prière n'était pas effectivement l'arme la plus puissante pour hâter la conversion des païens. « À vous les armes apostoliques », écrivait-elle à un père blanc, « à moi la prière et l'amour ». Mais aussi, quelle prière était la sienne ? « Je voudrais parcourir la terre, prêcher votre nom et planter sur le sol infidèle votre croix glorieuse, ô mon bien-aimé. » Mais une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans toutes les parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et continuer de l'être jusqu'à la consommation des siècles. De tels accents transportent une âme sur le seul plan du salut du monde. Nous sont-ils inaccessibles? Et ne trouvons-nous pas, dans nos épreuves quotidiennes, la matière d'un sacrifice à offrir pour les missions, comme le faisait encore la sainte Carmélite de Lisieux? Dans les derniers mois de sa maladie, le médecin qui la soignait lui avait ordonné de faire chaque jour une promenade d'un quart d'heure dans le jardin du couvent. Un après-midi, comme elle avait plus de peine que de coutume à marcher, la religieuse qui l'accompagnait lui conseilla de s'asseoir. Thérèse déclina l'invitation. « Je marche pour un missionnaire, » répondit-elle. « Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'entre eux est peut-être épuisé par ses courses apostoliques. Et pour diminuer sa fatigue, j'offre les miennes au bon Dieu. » Que le salut du monde et l'unité de l'Église universelle figurent donc parmi nos intentions de prière habituelles. Jésus nous les indiquait dans le texte qu'il nous a appris. « Que votre règne arrive. » Sachant le prix que notre Sauveur attache au salut d'une âme, notre cœur ne battra-t-il pas à l'unisson du sien au spectacle des multitudes païennes qui ne le connaissent pas? Jésus, qui est la tête du corps, écrivait saint Julien de Tolède, n'estime pas sa joie complète tant qu'il voit qu'il lui manque des membres. Durant cette messe, nous prierons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes, d'envoyer des ouvriers à sa moisson et de les aider à annoncer courageusement sa parole. Et comme nous y invite l'oraison qui prélude au sacrifice, présentons à Dieu la prière de son Fils, afin que son nom soit glorifié parmi les peuples d'une extrémité à l'autre de la terre. Au jour que nous appelons de tous nos vœux, où la Sainte Hostie sera offerte dans tous les lieux du monde. »